Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de la plus longue chasse à l'homme de France. Près d'un demi-siècle, aux trousses d'un collabo, Paul Touvier. Caché dans un monastère et traqué par le capitaine Philippe Maty de la section de recherche de Paris. Après une enquête incroyable. Bonne écoute. Paul Touvier. 12 balles dans la peau, avait dit De Gaulle en parlant de lui. Il est le premier Français condamné pour crime contre l'humanité. Il faut mesurer le poids des mots « crime contre l'humanité », le titre des salauds parmi les salauds. Pourtant, le milicien a bénéficié d'années de complicité, des années. Et c'est un vieillard qui sera finalement arrêté en 1989.
J'ouvre une porte. J'accède à une pièce de 4 mètres par 3, un lit, une armoire, un lavabo. Au milieu, un vieil homme en pyjama. Je lui dis qu'on est là pour le mandat d'arrêt. Il me dit qu'il est satisfait que ce soit la gendarmerie qui l'arrête. Cet homme-là, c'est Paul Touvier.
La collaboration, c'est cette tâche indélébile sur la grande toile de l'histoire. Des identités, Aloïs Brunner, Philippe Henriot, Paul Touvier, sur lesquelles on jette un voile. Ils sont ceux dont on ne prononce pas le nom. Alors, quand en 1989, le dossier du milicien Paul Touvier arrive sur le bureau de Philippe Maty à la section de recherche de Paris, ce nom lui est totalement inconnu.
Quand on m'a demandé de traiter l'affaire Paul Touvier, j'étais complètement ignorant de cette partie de l'histoire de la collaboration. J'ai fait mes études en Belgique et moi, je ne connaissais que Léopold II, le roi soldat Albert, Baudouin et Fabiola. Le reste, l'histoire de France, je veux dire, j'y connaissais quasiment rien, sauf de ce qui se dit. Mais alors, la partie de la collaboration, rien du tout. J'étais un ignare sur le sujet. Donc je commence à me renseigner, à savoir ce que c'est que la milice et qui est Paul Touvier, quel est son rôle au sein de la milice. La milice, c'est une police de Pétain et Paul Touvier, lui, est chargé des renseignements et de la documentation. Ce qu'on appellera le deuxième service de la milice. Et le sale boulot, c'est l'arrestation des juifs et des résistants. C'est un vrai collaborateur. Il trouve les adresses et les livre parfois à la Gestapo. Et le truc dingue, c'est que moi, je ferai la même chose que lui, je le traquerai pour l'arrêter.
À ce moment-là, Paul Touvier est déjà un fugitif recordman. Sa cavale dure depuis 1947 et son dossier est déjà bien garni avec une piste privilégiée.
En 89, on commence à cerner la protection de Paul Touvier. On sait qu'il est protégé par l'Église, principalement par la partie intégriste de l'Église. Je pense que le point de départ, c'est l'abbé Vautrin. L'abbé Vautrin qui s'était autoproclamé aumônier de la milice. C'est le point de départ. Paul Touvier était condamné à mort par deux fois, par des cours de justice de Lyon et Chambéry, pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Et Vautrin est le premier lieu de refuge de Paul Touvier qui, à la libération de Lyon, se cache chez lui, sous le plancher, sous un tapis, et les policiers n'arrêtent pas Touvier. Et l'abbé Vautrin a sûrement œuvré auprès d'autres personnages de l'Église pour que Touvier soit dans cette mouvance.
Malgré cette alliance entre l'intégriste et le collabo, le vent tourne en 1947. Car Paul Touvier avait bien été arrêté une première fois.
3 juillet 1947, Paul Touvier est arrêté à Paris dans le cadre du plan bleu par les renseignements généraux, transféré rue des Saussets, ancien siège de la Gestapo, pour y être interrogé. Le seul problème, c'est que Touvier va réussir à s'évader Une porte est restée ouverte. On ne sait pas si c'est volontairement ou involontairement. Mais il quitte les lieux libre et se met en cavale.
Paul Touvier, c'est un peu Fantômas, le grand méchant qui s'en sort à tous les coups.
En 1971, l'Église, par l'intermédiaire de politique, va solliciter une grâce présidentielle qui sera qu'une grâce subsidiaire sur la confiscation de ses biens, son interdiction de séjour. Et Georges Pompidou validera cette grâce partielle.
À l'époque, un certain mystère entoure le personnage du milicien. Ceux qui ont vu son visage ne sont plus là pour le dire. Jusqu'au coup de maître d'un journaliste bien connu de l'époque, Jacques Derogis, reporter à l'Express.
En 71, à la suite de la grâce présidentielle de Pompidou, il va y avoir un charivari médiatique qui fait que Paul Touvier reparaît dans tous les médias de France. Et Jacques Derogis, un journaliste de l'Express, se rend à Chambéry, à Villa des Charmettes, qui est la villa familiale de la famille Touvier. Et se faisant passer pour un fleuriste, tape à la porte, les volets métalliques s'ouvrent, et là, un individu en peignoir apparaît, et l'individu, c'est Paul Touvier.
Et il est photographié.
Donc c'est la première vraie photo de Paul Touvier en cavale. Il faut savoir qu'à l'époque, à la Villa des Charmettes, Touvier vivait dans la cave. J'allais dire, il était vraiment cloîtré dans cette villa, il ne sortait que très peu. Donc personne ne savait. Je crois que des policiers se sont rendus chez lui, mais par contre ne sont jamais rentrés à l'intérieur de la villa. Ils ne l'auraient jamais trouvé. Ils ont posé la question à son père, qui était là encore, et son père disait « Non, Paul n'est pas là ».
Mais la grâce présidentielle ne pèse pas bien lourd face au crime de ce nazi convaincu. En 73, le fils d'une victime fusillée contre le mur du cimetière de Rieux dépose plainte contre Paul Touvier pour crime contre l'humanité. Une plainte suivie d'une autre, déposée par la famille de Victor Bache. La brigade criminelle se met à sa recherche.
En 84, rebondissement dans l'affaire Touvier, Paul Touvier se fait passer pour mort. Un avis de remerciement concernant ses funérailles paraît dans le journal local de Dauphiné Libéré. On décide de se rendre à Chambéry, vérifier au cimetière où le caveau familial se trouve. Pas de nom de Paul Touvier sur ce caveau. Nous restons quand même en surveillance, vérifier si les membres de la famille viendraient déposer des fleurs sur quelque tombe que ce soit. Personne ne vient. On a la certitude que Paul Touvier n'est pas mort.
Les enquêteurs décident de suivre la piste de l'église. Un collègue de Philippe Matisse se fait passer pour un saisonnier des vendanges et demande l'hospitalité dans les monastères. Ça ne donne rien. Les gendarmes décident donc de planquer au monastère de la Grande Chartreuse. Bah oui, c'est là que se trouve le prieur Dom Poisson, celui qui a œuvré activement pour la grâce de Paul Touvier.
La planque, on l'a fait dans les bois qui entourent la Grande Chartreuse. La Grande Chartreuse, ça s'appelle le monde du silence. Donc c'est un peu lugubre, quoi. Donc on était deux. Donc on a planqué avec un de mes collègues. On a planqué quasi jour et nuit. On dormait gentiment dans les bois, etc.
Qu'est-ce que vous attendiez dans les bois? Il y a des hauts murs, vous ne voyez pas derrière les murs.
Si, on avait une lunette astronomique et qui nous permettait de voir ce qui se passait dans certaines cellules de la Grande Chartreuse. Et ça nous permettait aussi de voir l'accès de la Grande Chartreuse, de savoir si quelqu'un y rentrait, qui pourrait être Touvier, avec sa famille. Donc on est resté là-bas. C'était très lugubre les nuits à la Grande Chartreuse, parce que les Chartreux prient la nuit, mais prient en chantant. Donc, j'allais dire avec des chants grégoriens. Donc la nuit, il y avait un silence de mort. Et j'allais dire, à un certain moment, vers 2-3 heures du matin, hop, les chants dans ce désert du silence, c'était assez lugubre.
Des journalistes du Canard Enchaîné apprennent aux enquêteurs que le protecteur de Paul Touvier à la Libération a créé autrefois un mouvement appelé les Chevaliers de Notre-Dame. Dans l'annuaire des mouvements religieux, bingo, le nom ressort. Les Chevaliers seraient dirigés par un certain Don Lafont à l'abbaye de Wisques. C'est dans le Pas-de-Calais.
On déboule à l'abbaye de Wisques à 6 heures du matin, après être parti de Paris à 3 heures. Commission rogatoire à la main. et on perquisitionne dans l'abbaye. On rencontre Don Lafont. Il fait partie des fondateurs des Chevaliers de Notre-Dame. Et donc, il est normal qu'on recueille son audition en sachant que peut-être il est un intermédiaire dans la cavale de Paul Touvier.
On l'emmène à la brigade locale.
On l'emmène à la brigade locale. Je me charge de son audition. Et je lui fais part que lui et moi, nous sommes astreints au secret. Et quand il se réfère au secret de la confession, je lui dis que je peux le libérer du secret puisque nous avons la même vocation sur ce sujet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Don Lafont a été le confesseur de Paul Touvier alors qu'il était à l'abbaye de Sainte-Vendrille. Je demande à Lafont quel est l'intermédiaire entre lui et Paul Touvier. Et là, Lafont me donne le nom d'un personnage qui était sur écoute, qui est Jean-Pierre Lefebvre, ancien Waffen-SS de la division Charlemagne, chargé de récupérer les fonds pour permettre la cavale à 4 de Paul Touvier. Là, je sais que je vais coincer Touvier.
Après 3 jours à remonter le fil et plusieurs interrogatoires sans dormir, Touvier est enfin localisé au prieuré Saint-Joseph à Nice. C'est à 800 km. Et, faute d'obtenir un avion, la section de recherche doit prendre la route.
On décide de faire la route avec nos propres moyens. Une 305 break, en rodage, diesel. Le colonel prend le volant, il a une nuit de sommeil en plus et il fait la route complète entre Châteauroux et Nice. Sur la route, la jauge de gasoil arrive sur la réserve et là, aucune station-service. Sauf, à un certain moment, une station-service en sens inverse. On prend donc l'autoroute à sens inverse, gyrophare de ton, afin de pouvoir faire le plein et continuer notre route vers Nice.
Pour éviter la fuite de Paul Touvier, la compagnie de gendarmerie locale encercle le prieuré Saint-Joseph avec interdiction absolue de rentrer à l'intérieur.
À 8h10, on arrive au prieuré. Le colonel frappe à la porte. Un frère ou un père vient ouvrir. À la vue du colonel, tente de refermer la porte et le colonel met son pied entre la porte et force le passage. Je rentre dans l'abbaye, je monte au premier, là sur un long couloir, plusieurs portes se succèdent. La pièce, un lit, une armoire, un lavabo, au centre de la pièce, Paul Touvier, dont je me souviens de la clarté de ses yeux bleus, de la couleur du ciel par la fenêtre ouverte, et sur un côté, une malle ouverte à 2 bâtons. J'en suis sûr, c'est Paul Touvier.
Monique Berthet et les 2 enfants Chantal et Pierre sont découverts dans les cellules voisines.
Le colonel s'en va, je reste avec Paul Touvier et là je vois que dans la balle il y a des dossiers étiquetés et j'essaye de comprendre comment je vais faire pour ramener cette malle à Paris. Avec une idée en tête, la faire saisir par le juge. Je demande à Paul Touvier s'il souhaite que cette malle l'accompagne. Il accepte et là je prends la décision de ramener cette malle. Dans cette malle, il y a vraisemblablement une partie des relations de Paul Touvier et une autre partie de sa défense.
Grâce à cette malle, Philippe Maty va avoir accès à des éléments précieux et inattendus qui vont lui permettre de mener maintenant son enquête pour crime contre l'humanité.
Vous venez d'écouter L'Instant Où, un podcast BFM TV incarné par Dominique Rizet. Réalisation Yves Pulici et Laura Dulieu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site et l'application BFM TV et toutes les plateformes d'écoute.